Comme vous le savez, le thème proposé par le sanctuaire de Paray-Monial cette année, c'est « Pour eux, je me consacre moi-même ». C'est une étape importante en vue de la préparation du jubilé de 2020, quand nous allons célébrer le centenaire de la canonisation de Sainte Marguerite Marie. Et c'est pour cela que nous vous proposons en chaque... à l'occasion de cette retraite, autour du premier vendredi du mois, de nous préparer et puis de vivre une consécration personnelle, mais aussi familiale, au cœur de Jésus, ici dans la cité qui lui est dédiée. Alors, ce mois de mai, nous pensons que c'est une bonne chose de se laisser guider par la Vierge Marie, que nous vénérons d'une manière particulière, comme chaque année au mois de mai, pour différentes raisons. Et le thème de cette rencontre est à Jésus par Marie. Alors, dans l'introduction d'hier soir, je voulais vous inviter, ceux qui étaient là, à l'heure sainte, à nous rappeler tout simplement de ce lien entre le cœur de Jésus et le cœur de la Vierge Marie, qui nous ont été révélés d'une manière particulière, d'une part ici à Paray-Monial, et puis un peu plus tard, à Fatima. Bon, voilà, un mois de mai, nous nous rappelons aussi de ces apparitions qui ont commencé le 13 mai 1917, à Fatima, où la Vierge Marie a voulu aussi révéler son cœur. Mais à travers cette expérience dans l'histoire de l'Église, eh bien, il s'agit aussi d'une expérience très personnelle qui nous est proposée à nous tous, de nous laisser guider, évidemment, par la Vierge Marie vers le cœur de son Fils, pour qu'elle nous apprenne comment est-ce que nous pouvons vivre cette consécration de nous-mêmes. Alors certains parmi vous peut-être se sont déjà consacrés au cœur de Jésus, d'autres qui ont entendu parler, ils voulaient savoir comment ça se passe et à quoi ça nous engage, parce que pour certains, ça peut faire peur, hein, probablement. Hein. Je donne un peu ou je donne tout? Consécration, ça veut dire quoi? Alors donc, je vais vous proposer ce matin, une première étape, donc, de méditer sur cette consécration au cœur de Jésus. Si le thème, c'est « À Jésus par Marie », c'est bien quand même de voir le but, hein, voilà, vers où on va. Et surtout, donc, regarder surtout la personne de Jésus, d'abord, avant tout, qui est la personne consacrée par excellence. C'est lui l'élu, loin, le Messie. C'est lui qui lui-même a vécu d'abord dans sa personne totalement cette consécration. Voilà. Et dans un deuxième temps, après un regard biblique, c'est-à-dire voilà, surtout sur la façon dont Jésus lui-même a vécu cette consécration, je vous propose de nous rappeler un peu comment nous-mêmes avons été déjà consacrés, hein, depuis notre baptême. Hein. Si nous avons été baptisés. Sinon, si on se prépare au baptême, ben voilà, sachez que le jour du baptême, ben vous serez consacrés. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette consécration baptismale? Et d'ailleurs, il s'agit d'une action de Dieu, d'une œuvre de Dieu qui commence d'une manière particulière avec le baptême et qui se prolonge dans les autres sacrements. Et enfin, on va essayer de voir quelle serait notre réponse personnelle à cette œuvre de Dieu? Et comment certains dans l'histoire, et notamment ici à Paray-Monial, quelqu'un comme Marguerite Marie, mais bien sûr d'autres avant ses saints, hein, Marguerite Marie, Saint-Claude, ont pu vivre cette démarche et comment ils nous proposent à nous aussi de l'appliquer à notre vie. Donc au niveau de plan de l'enseignement, c'est un peu cela, voilà. Je vais vous rappeler deux, trois mots au niveau étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire, consécration? Si vous cherchez dans un dictionnaire, on vous dit qu'il s'agit d'un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose, qui, par là, entre dans la catégorie du sacré. Alors, évidemment que dans l'Église catholique, quand vous pensez à la consécration, ça vous vient quoi en tête? surtout la messe, n'est-ce pas? Cette transformation, voilà, où le pain et le vin, disent les dictionnaires, je dirais laïcs, enfin, sont convertis en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Je trouve que c'est un mot très juste, en fait, hein, cette transsubstantiation. Hein. C'est encore le moment de la messe hein, où se fait cette action. Alors, chez nos frères protestants, il s'agit de l'acte par lequel l'Église confère à un homme la charge de ministère. Alors, chez nos frères anglicans ou les luthériens, cela est réservé surtout aux pasteurs. C'est eux qui sont consacrés pour une mission. Mais de toutes les façons, d'une manière plus générale, il s'agit comme une sorte de sanction, comme une élection, voilà, et comme une mise à part aussi. Ou encore, le dictionnaire nous dit qu'il s'agit d'une action de donner à quelqu'un, à quelque chose, une place éminente. La consécration d'un chanteur, ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire qu'on le déclare publiquement, n'est-ce pas? Voilà. Mais d'une manière beaucoup plus simple, dans notre vie quotidienne aussi. Quand je consacre du temps à une activité, ça veut dire que j'aime bien faire cette chose-là. Hein. Si j'aime le foot, je peux passer une soirée, hein, regarder un match de foot. Et je peux dire, j'ai consacré ma soirée au foot. Non, ça vous arrive parfois. Bon, alors vous, mesdames qui passez beaucoup de temps dans la cuisine, vous consacrez combien de temps à faire vos bons plats, hein? Parfois beaucoup de temps, hein? Bon, des expériences tout simples, ah, le sport, la cuisine. Mais après, quand il s'agit des personnes hein, dans la relation avec les autres, eh bien, vous pouvez constater qu'en fonction du temps que vous consacrez à quelqu'un, ben, vous l'aimez plus ou moins. Vous pouvez consacrer une soirée pour un dîner avec quelqu'un, avec des amis. Et vous pouvez aller jusqu'à consacrer une vie entière à la passer avec le conjoint. Hein? Ça vous est déjà arrivé, non? De penser à ça. Que vous qui êtes marié, vous avez déjà consacré votre vie entière à l'autre, quoi. Hein? Vous êtes donné à lui ou à elle. Quelqu'un disait aussi que le temps, c'est la mesure de l'amour. Eh bien, en fonction du temps que vous passez avec quelqu'un, vous pouvez voir si vous aimez ou pas. Et l'inverse, hein. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous avez envie de rester avec, non? Quand il s'agit de Dieu, c'est la même chose. Alors, il y a des personnes qui ont voulu consacrer une vie entière à passer avec le Seigneur parce qu'ils l'aiment, parce qu'elles aiment le Seigneur, ces personnes. Et c'est pour cela qu'on parle d'ailleurs d'une vie consacrée. Alors, voilà quelques notions au niveau, je dirais, du langage, mais en tous les cas, vous voyez, quand il s'agit de notre rapport à Dieu, la consécration veut de toutes les façons dire un acte, une action par lequel on dédie quelque chose ou quelqu'un à la divinité. Je vais m'arrêter ici, je vais passer maintenant à ce mot dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, déjà, ce mot est utilisé souvent pour désigner celui qui est réservé pour Dieu. Où il s'agit aussi même des objets, hein, des édifices, un lieu, voilà, qui sont réservés pour Dieu, pour célébrer son culte, et qui ne peuvent plus désormais servir à une autre chose, à un autre usage. Alors, quand il s'agit d'une personne aussi, ou d'un groupe de personnes, c'est bien sûr... il y a un respect total de sa liberté, mais cette personne accepte d'être mise à part pour le service de Dieu. Alors, on a ici un peu le résumé de tout ce que l'Écriture veut nous enseigner sur cette réalité de la consécration. Quand on lit un peu l'Ancien Testament, on voit qu'il y a cette idée de du sacrifice aussi, hein, c'est-à-dire comme une sorte de perte de l'objet, hein, ou même de soi-même, hein, quand on se donne à Dieu. Dans l'idée du sacrifice, on offre quelque chose, ou soi-même, et on ne s'appartient plus, en fait. Mais dans la notion de consécration, on voit un peu plus clairement, je dirais, l'aspect positif de cette offrande. Donc, il y a un lien entre le sacrifice et la consécration, mais quand on parle de la consécration, on peut apprendre, enfin, on peut se rendre compte qu'il s'agit de quelque chose de très beau, en fait. La personne ou la chose consacrée s'ennoblit, s'enrichit d'une valeur incomparable. Ce qui est consacré, ce qui devient saint, c'est quelque chose de très précieux, en fait, voyez. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament qu'en réalité, à cause de cela, Dieu seul peut consacrer un objet ou une personne. Dans le langage habituel, on dit « je consacre à Dieu tel objet » ou « je consacre mon enfant » ou « mon travail » ou « moi-même ». Voilà, « je me consacre à Dieu », c'est vrai. Au niveau du langage, on dit cela, mais en réalité, l'être humain ne peut pas se consacrer soi-même, c'est-à-dire il ne peut pas rentrer lui-même de ses propres forces dans la réalité divine, spirituelle. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement nous disposer à la consécration. Nous nous remettons au Seigneur parce que c'est lui seul qui peut communiquer sa sainteté, sa vie. C'est lui seul qui peut faire entrer sa créature ou l'objet respectif dans l'ordre spirituel, dans l'ordre de la sainteté. Lui seul peut faire passer du monde profane dans le monde du sacré. Et donc, c'est pour cela que l'engagement de se remettre à Dieu peut aussi recevoir un caractère sacré et irrévocable. Ainsi, le don de Dieu et la liberté de l'homme sont intimement liés dans tout acte de consécration. Et enfin, un autre aspect que l'Ancien Testament déjà nous apprend, c'est que toute consécration, il y a une mission. L'appel de Dieu est toujours en vue d'une mise à part et donc orienté vers un service du peuple de Dieu, vers une mission spéciale. Il s'agit non pas seulement des personnes individuelles, mais aussi, même, cela est valable aussi pour le peuple tout entier. D'ailleurs, on sait que le peuple de Dieu, le peuple qu'il s'est choisi, a été mis à part, a été sanctifié, consacré. Pourquoi ? Quelle est sa mission ? Pour être un signe vivant et visible de la présence de Dieu au milieu des autres peuples, au milieu du monde. Et c'est pour cela que certains disent que le peuple d'Israël n'a pas comme mission l'évangélisation, on dirait, hein, ou le témoignage verbal nécessairement, mais ce lieu de présence, de témoin silencieux, hein, être là, être mis à part en signe de cet amour de Dieu et sa présence de Dieu au milieu des nations. Vous avez cela dans tous les psaumes, enfin dans l'Ancien Testament. Alors tout cela, bien sûr, qui est valable d'une manière tout à fait spéciale pour la personne de Jésus lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament ? Que déjà le nom même de Jésus-Christ contient en lui cette idée de consécration. Saint Irénée disait que le nom de Christos, qui veut dire quoi ? Oint, voilà. Il disait ceci, ce qui indique son nom lui-même, car dans le nom du Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père, celui qui a été oint, c'est le Fils, et il a été dans l'Esprit qui est l'onction. Voilà, c'était une belle image, une belle explication, toute simple, de la main de la Trinité même, hein, qui vit dans la personne du Fils de Dieu fait homme. Donc, c'est pour avoir en tête cela, vous voyez, le nom même du Seigneur veut dire voilà, le consacré par excellence, le Messie. Le oint en grec, ça veut dire Christos, et puis en hébreu, Mashiach, hein, celui qui est oint. Alors, à quel moment est-ce que Jésus, en tant qu'homme, a été consacré. Dès son arrivée dans le monde, vous avez des numéros dans le catéchisme, 437 et les suivants, mais il cite l'Écriture. Dès l'origine, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, comme le dit Saint Jean au chapitre 10, verset 36, qui est conçu comme saint. Déjà à l'Annonciation, dans le sein virginal de Marie, voilà, l'ange dit, celui qui va naître de toi sera saint. Sera saint, c'est-à-dire sera mis à part. Un peu plus tard, quand Jésus a été baptisé, la consécration messianique de Jésus va manifester aussi sa mission divine, pourquoi il était venu. Et quand l'Esprit-Saint est descendu sur lui, on a pu constater justement ce choix, en fait. Dieu l'a oint de l'Esprit-Saint et de puissance, disent les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38, pour qu'il fût manifesté à Israël comme Messie, comme son Messie. Ses œuvres et ses paroles le feront connaître comme le Saint de Dieu. Et souvent, dans la vie de Jésus, il y a plusieurs témoignages dans les évangiles où les gens reconnaissent en lui le Saint de Dieu. Il s'agit, en fait, vous voyez, de cette union entre la nature humaine du Fils de Dieu fait homme et sa divinité, sa nature divine. Depuis que le Verbe s'est fait chair, la nature humaine a été totalement unie à cette divinité. Donc, du coup, mise à part. Du coup, imprégnée, imbibée par la présence de Dieu. Et on ne peut pas les séparer, vous voyez, dans la personne de Jésus, la nature humaine et la nature divine. Ça, vous le savez. Et donc, vous voyez, c'est un peu l'essentiel de notre foi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disaient les pères de l'Église. Mais le premier qui a vécu cela, c'est qui? C'est lui, c'est Jésus. Donc c'est pour cela que toute forme de consécration a son origine dans sa personne. Donc si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est qu'être consacré, il s'agit d'aller à Jésus, vers lui, le voir, le connaître, le suivre, bien sûr, mais s'unir à lui afin qu'on puisse être vraiment consacré nous aussi. Alors évidemment, la personne qui l'a fait d'une manière particulière, c'est la Vierge Marie, on verra ça un peu plus tard. Mais devant ce don de Dieu, lui, comment il a réagi, le Seigneur? Il a répondu librement à ce don de Dieu, à cette élection. Et en effet, la lettre aux Hébreux dit ceci, au chapitre 10, c'est un texte très important, à partir du verset 5 jusqu'au 9. Ainsi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. » C'est-à-dire des animaux qu'on avait l'habitude d'offrir dans le culte pour faire plaisir à Dieu, quoi. Enfin, ou pour se réconcilier avec lui, pour lui demander le pardon, pour lui montrer l'amour, pour respecter le culte. C'est-à-dire des offrandes extérieures à soi-même, quoi. C'est une citation d'un psaume. Et donc, les Lévites aux Hébreux disent ceci, voilà, le Christ n'a pas dit, je vais t'offrir quelque chose, Seigneur. Tu n'as pas voulu ça. Mais tu as voulu que je t'offre autre chose. Quoi? Le texte continue. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors, j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit dans le livre. Tu m'as donné un corps pour que je te le donne, que je te l'offre librement, selon ton désir, selon ta volonté. Vous voyez, c'est cette offrande de soi-même comme une réponse libre de la part du Fils de Dieu, fait homme. Il a vécu au début, à l'entrée dans le monde, dit l'Épître aux Hébreux. Mais quand on regarde la vie de Jésus, on voit bien qu'il a vécu tout le temps dans cet accomplissement, ce désir d'accomplir ce que le Seigneur lui dit, ce que le Père lui demandait. Et donc, tout ce qu'il a fait, il a fait parce qu'il était justement déjà rempli de cette présence de l'Esprit-Saint et déjà parce qu'il avait décidé de se donner au Père. Et à la fin de sa vie, dans sa prière qu'on appelle La pièce sacerdotale dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, on a cette parole très belle, cette prière. Père Saint, consacre-les dans la vérité. Et un peu plus tard, il dit, pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. Il a dit cela à la dernière scène, et quelques heures après, il a vraiment vécu, il a accompli réellement ce don, cette consécration de soi-même comme une réponse libre, vous voyez. Et sous la croix, hein, quand il a donné sa vie sous la croix, ben, il a accompli dans son corps même, hein, cette offrande en tant que grand prêtre éternel. Alors, ce qui est beau, bien sûr, nous on va se dire, ben, c'est bien, Jésus l'a fait pour nous, hein, déjà. Alors nous, on ne va pas le faire comme lui quand même, parce que nous, on n'est pas Dieu, hein. On a du mal à faire la même chose que lui. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas encore obligé d'être crucifié, hein, par exemple. Mais on peut être martyrisé autrement, vous savez ça. Et des chrétiens aujourd'hui sont en train d'imiter le Seigneur, mais c'est-à-dire de le rendre présent. Hein. Tous ceux qui sont persécutés, ils vivent pleinement cela. Alors nous, ça peut nous arriver aussi. Hein. D'autres formes, vous voyez, des situations où nous sommes peut-être demandés, il nous est demandé, de prendre une position pour ou contre Dieu. On ne peut pas être indifférent. Hein. C'est, on peut rester, mais l'Apocalypse dit quelque chose de très dur, hein, par rapport à ceux qui sont tièdes. Hein. Eh bien, on a à se préparer justement pour cette offrande, cette consécration de nous-mêmes. En regardant le Seigneur, entre ces deux consécrations qu'il a vécues au début de sa vie et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que chaque jour de sa vie parmi nous, ben, il a voulu confirmer son appartenance radicale au Père et au peuple consacré en même temps. Et en même temps, sa disponibilité pour la mission. Donc, de certaine manière, lui-même s'est préparé pour cette offrande totale, finale, je dirais. Et le moment où nous pouvons contempler jusqu'où est allé ce don de lui-même, évidemment, je disais, c'est sur la croix, quand son cœur même a été transpercé, et ils sont jaillis, quoi, il y a quelque chose qui est sorti du cœur de Jésus. L'eau et le sang qui sont le symbole des sacrements, hein, du baptême et de l'Eucharistie, mais en même temps, cette eau qui coule nous renvoie à l'Esprit Saint, vous voyez, cet Esprit qui reste comme un fleuve, comme une source qui nous est donnée, qui arrive jusqu'à chez nous, qui nous prépare et qui nous donne justement ce désir de limiter Jésus jusqu'au bout, quoi. Alors, comment est-ce que nous pouvons recevoir cela? Donc voilà, ça c'est la vie, c'est voilà, quelques éléments du Nouveau Testament. Maintenant, en quoi ça peut nous concerner, nous? Et comment est-ce que nous avons et nous pouvons être consacrés? Et donc je passe à ce troisième point, la consécration des chrétiens. Donc après une introduction concernant l'étymologie. Après, on regarde sur la Bible. Nous arrêtons un peu sur la consécration de chacun de ceux et celles qui sont chrétiens. Donc, je ne vais pas faire une histoire de la consécration, comment elle est vécue dans l'Église, mais simplement vous proposer de nous arrêter sur le mot même chrétien. On dit qu'un chrétien, c'est un autre Christ. Parce qu'on porte carrément le nom du Seigneur. C'est très fort cela. Et on n'y pense pas. Bon, on est chrétien. Oh, d'autres disent, ben, je suis catho. Bon, et catho ne veut rien dire aujourd'hui, ou au contraire, pour certains, c'est quelque chose de très mauvais. Il ne faut surtout pas être catho aujourd'hui. Hein. Alors, chrétien, bon, peut-être. Et encore. Mais ça veut dire que nous avons reçu, comme Jésus, ce don de la consécration, en fait. Hein? Comme lui. Hein? Un autre Christ, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, on va s'arrêter là-dessus un peu, dans un premier temps. Et à la fin, dans la dernière partie, on va voir comment nous pouvons répondre à ce don de Dieu. Alors, le Seigneur nous fait don de sa grâce et de son esprit qui nous consacre, surtout dans les sacrements. Et je vous le disais au début, je vous disais qu'il s'agit surtout du baptême. C'est là, c'est au moment du baptême que nous recevons cet amour de Dieu comme un don absolument gratuit, une communication tout à fait spéciale de son être à lui, de sa sainteté, en fait, de sa vie divine. Et si vous ouvrez le Concile Vatican II, je ne suis pas sûr que vous l'avez à la maison, hein, qu'on n'a pas habitué de lire hein, régulièrement le Concile Vatican II. On lit n'importe quoi pour le reste, d'ailleurs. Hein. On a le temps de lire beaucoup de choses. On lit la Bible, sûrement. L'enseignement de l'Église, ça reste parfois un peu... On dit que c'est compliqué, donc on ne va pas le lire, quoi. Je vais vous citer un petit numéro. Numéro 10 sur la Constitution, dans la Constitution sur l'Église. Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, donc c'est là encore une citation de l'Épître aux Hébreux, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Et là, on cite l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6 et chapitre 5, verset 9. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles. Ouais, c'est un renvoi à l'Eucharistie, évidemment, qui est l'offrande totale du Seigneur qui nous est faite à nous et en même temps notre union à lui, quoi. Et après, on nous dit, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Dit la première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 4 et les suivants. C'est très dense, ça mérite développement. Je vais vous dire deux, trois aspects qui pourront nous aider à nous rendre compte de ce don que nous avons reçu le jour de notre baptême, si nous on l'a été baptisé, ou si on va le recevoir un jour, se rendre compte de plus en plus ce qui se fasse passer. Il s'agit donc d'une consécration baptismale qui est commune à tous les fidèles. Donc, dans ce sens, elle est fondamentale, et sur elle reposent toutes les autres formes de consécration de la vie chrétienne. C'est donc cette participation à la consécration même du Verbe de Dieu, qui s'incarne dans l'Esprit Saint. Et à cause de cette consécration, on l'a vu, il lui est donné de faire, de s'offrir en retour, hein, par amour au Père. Mais en même temps, quand Jésus s'offre, il va nous entraîner avec lui, en fait. Et c'est pour cela que, vous voyez, dans ce baptême, au moment du baptême, eh bien, c'est vraiment important de se rendre compte de ce qui s'est passé en nous. Hein. Si nous sommes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, c'est parce que c'est Dieu qui a fait ce premier pas. C'est Dieu qui a voulu réaliser cette œuvre en nous. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu seul peut consacrer l'être humain. Eh bien, c'est dans le baptême, c'est lui qui, en fait, a fait son œuvre en nous, et d'une manière définitive. C'est-à-dire que, au moment où nous avons vécu ce que Jésus lui-même a vécu, hein, et nous pouvons dire avec lui, hein, en entrant dans le monde, ben, Seigneur, tu m'as fait un corps, tu n'as pas voulu holocauste et sacrifice, mais tu m'appelles à t'appartenir, en fait. Eh bien, à partir de ce moment-là, quand le don de Dieu vient habiter notre cœur, nous utilisons le mot nouvelle naissance. On commence une nouvelle vie, hein, c'est bien ça. Le baptême, c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on commence une existence totalement différente de ce qui était avant. On devient enfant de Dieu. Ça veut dire que la vie même de Dieu est imprimée pour toujours dans notre être humain. Et il s'agit comme d'un sort de sceau, vous voyez, un sceau, une marque spirituel ineffaçable, qu'on appelle comment dans le langage de sacrement, une fois pour toutes. On imprime ce qu'on appelle un caractère. Donc c'est le mot grec, hein, mais il s'agit d'un sceau, quoi. Le seau, vous voyez ce que c'est un seau? Eh bien, le seau, ça sert à quoi? Ben, une marque d'appartenance. Hein. Quand vous mettez le seau sur quelque chose, sur un papier, ben, vous savez d'où ça vient et à qui ça appartient. N'est-ce pas? Dieu a mis un seau sur nous. Alors, ce seau, évidemment, on n'est pas marqué au fer rouge. Hein. Enfin, il n'y a pas non plus des étiquettes dans nos oreilles, comme on les vaches charolaises dans le coin ici, vous voyez, qu'on le reconnaisse. On remet un truc ou d'autres choses. Enfin, il y a des façons différentes de montrer l'appartenance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce seau? Cette marque ineffaçable que personne jamais ne peut l'effacer, même pas le péché, même pas la révolte. Du coup, à propos de faire débaptiser, parce que vous entendez ça aussi, hein, bah c'est que malheureusement, nos frères chrétiens qui ont été baptisés, qui veulent se faire débaptiser, n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que cette marque, c'est vraiment un don de tout l'amour de Dieu qui est imprimé pour toujours dans notre âme, quoi. Enfin, dans notre être, parce que ce n'est pas que l'âme, c'est le corps aussi qui est marqué par cette présence de l'Esprit-Saint, évidemment, qui habite en nous pour toujours. Je vous laisse méditer. C'est surtout, je pense que c'est la chose la plus importante que vous pouvez retenir, hein, dans cet enseignement. Se rappeler cela. Nous appartenons déjà depuis le baptême à Dieu à cause de ça, à cause de ce caractère. Je peux vous donner le numéro de le catéchisme de l'Église catholique, hein, ça je pense que ça on peut l'avoir aussi, 1272 jusqu'en 1274 où on explique un peu cela, ce signe d'appartenance au Christ. Oui, bien sûr, un péché peut, ou les fautes, enfin un comportement contraire à la foi, peut empêcher le baptême de porter les fruits, bien sûr. Mais de toutes les façons, le baptême, à cause de sa puissance et cette action de Dieu, ne peut jamais être enlevé. Et donc, du coup, bah, on ne peut pas être baptisé deux fois, non plus. Ou on ne peut pas le renouveler, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas réitérer le baptême. On ne peut pas avoir deux fois la même chose. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu a fait une fois, c'est bien fait, vous voyez. Il ne fait pas les choses à moitié, lui. Hein. Quand quelqu'un est baptisé, quand on lui a dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est une fois pour toutes. Vous prenez un exemple. Vous avez un enfant. C'est un exemple. Hein. Peut-être absurde, mais enfin. Qui va se rebeller. À 25 ans, il dit « Je vous renie. Toi, mon père, tu n'es plus mon père. Toi, ma mère, tu n'es plus ma mère. Je m'en vais. Fini, terminé. Je ne veux plus vous voir. » Il s'en va. Bon, est-ce que vous pensez tout de suite à la parabole, n'est-ce pas, de l'Évangile. Mais c'est une réalité. Ça peut, voilà, c'est une expérience qui peut nous faire comprendre ça. Même s'il s'en va, même s'il n'y a plus aucun lien avec les parents, il restera le fils de ses parents. Il le restera. Il ne peut rien faire pour empêcher ça. Rien. C'est ça ce qui s'est passé le jour de notre baptême. Le Seigneur a mis en nous ce don absolument gratuit de tout son amour, de tout son cœur, et bien nous sommes ses enfants. Donc c'est si simple que ça en fait, vous voyez, cette marque, cette consécration, cette appartenance au Seigneur depuis notre baptême. Alors, il s'agit bien sûr d'une consécration invisible. Pourquoi? Parce qu'elle touche essentiellement notre cœur, c'est-à-dire le centre même de notre personne. Ce n'est pas une consécration superficielle, ce n'est pas seulement l'engagement d'entrer dans une société qu'on appelle Église et on va cotiser et, à travers le denier du culte, hein, qu'on donne ou pas, et comme ça on dit ben, je suis chrétien, quoi. Non. Et ce n'est pas non plus le nombre de services qu'on peut rendre qui vont être la marque de cette appartenance. Non, ce n'est pas le nombre de missions qu'on peut faire. Ce n'est pas le nombre de prières non plus. Non, ce n'est pas ça qui nous fait appartenir au Seigneur, en fait. C'est quelque chose de très, très profond. C'est une alliance du cœur qui a été bien sûr annoncée depuis très longtemps. Et cette appartenance de Dieu, du coup, n'est pas signifiée comme dans l'Ancien Testament, hein, par la circoncision, vous voyez, l'appartenance au peuple de Dieu, il fallait que ça se passe par la chair, quoi. Enfin, voilà. Non, non. La circoncision que nous avons vécue, elle est intérieure. Jérémie le dit clairement, hein. Convertissez vos cœurs, laissez-vous purifier dans votre cœur. Et l'Esprit Saint vous est donné, hein, pour enlever votre cœur de pierre et recevoir un cœur de... Ça veut dire quoi, un cœur de chair? Un cœur qui est sensible, un cœur qui est capable de répondre, vous voyez. Mais d'abord d'accueillir, en fait, hein, vous voyez. Donc la véritable circoncision, c'est intérieur, cette alliance intérieure qui n'est pas pratiquée d'une manière matérielle, quoi, vous voyez. Vous lisez cela dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Saint Paul nous dit très, très, très simplement, cette alliance, cette appartenance à Dieu consiste dans un entier dépouillement de votre corps de chair, c'est-à-dire de nos envies humaines, quoi, en fait, hein. C'est cela la circoncision qui vient du Christ, cette alliance. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscité avec lui par la foi. La foi en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et donc du coup, vous aussi, vous êtes ressuscité avec lui. On vient de le célébrer et le répéter et l'entendre plusieurs fois durant ces jours de Pâques, en fait. Hein. Et, parce que c'est là, hein, que cette alliance a été faite, vous voyez. Donc, j'ai insisté un peu sur ce signe, ce sceau, parce qu'elle peut nous aider à comprendre comment est-ce que nous appartenons déjà au Seigneur depuis le jour de notre baptême. Alors ensuite, dans les autres sacrements, cette grâce est déployée, développée. Il y a encore deux autres sacrements à caractère, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit une fois pour toutes. Lesquels? On est loin aussi. Bien, la confirmation. Et, c'est vrai, ce n'est pas pour tout le monde, le sacerdoce. On reçoit une onction de l'Esprit, cette fois-ci, bien sûr, pour appartenir au Seigneur, mais avec un envoi en mission. Concernant la confirmation, pour dire en quelques mots, là vous pouvez aussi le lire dans le catéchisme, 1294 et le suivant, il s'agit de ce sceau de l'Esprit qui se pose de nouveau sur nous et qui nous transforme dans des personnes adultes et surtout qui nous donne une mission. Alors, ça vaut vraiment la peine de lire les effets du sacrement de la confirmation. Faites un effort, cherchez-les chez vous, à travers, voilà, à partir de ces numéros-là, concernant surtout le sacrement de la confirmation. C'est quelque chose de très magnifique de ce qui nous est dit dans le catéchisme. Hein. Nous sommes choisi par le Seigneur en tant que baptisé à être ses témoins, mais envoyé par lui, en fait. C'est pas seulement notre volonté, quoi. Avant que nous répondions et que nous acceptions, eh bien, il nous fait ce cadeau et il nous donne cet esprit pour être des témoins authentiques, en fait, de sa présence, de défendre la foi vaillamment, dit le texte, défendre vaillamment sa foi. Alors, si l'un ou l'autre ne sait pas comment faire pour défendre sa foi, eh bien, rappelez-vous de ce don de l'Esprit qui a été imprimé, là aussi, une fois pour toutes. Et malheureusement, le sacrement de la confirmation, il est quand même un peu négligé, hein. C'est-à-dire qu'on l'oublie vite. Est-ce que vous vous rappelez des sept dons de l'Esprit? Les sept dons que l'Esprit vous a fait ce jour-là. Bon, il ne faut pas me donner la liste tout de suite, mais ouais, c'est un petit test, hein. Demandez autour de vous nos frères et sœurs les plus pratiquants, demandez-leur s'ils connaissent les sept dons de l'Esprit qui sont donnés une fois pour toutes, là aussi. À cause de cette marque, ce sceau qui nous a été donné, pour qu'on puisse remplir pleinement notre mission de chrétien. Et enfin, concernant le sacerdoce, eh bien, c'est là aussi une onction qui fait de ceux qui sont consacrés évêques, prêtres ou diacres, des personnes qui appartiennent à un titre spécial à Dieu. Et ils ont aussi mis à part d'une manière spécifique pour laisser le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, vivre en eux, enfin en nous, hein, en tant que prêtre, prophète et pasteur. Évidemment, chacun selon son degré d'ordination, évêque, prêtre ou diacre. Je ne vais pas insister longuement là-dessus. Monseigneur Rivière, durant la messe chrismale, nous a rappelé justement cette consécration sacerdotale qui est donnée en vue d'une mission, là aussi, spécifique. Et il prenait l'exemple d'un parfum, en fait, dans lequel nous sommes plongés pour qu'ensuite on laisse cette odeur se répandre autour de nous. Vous voyez, c'est aussi une image biblique, c'est là. Et il disait, cette empreinte vive, c'est quoi finalement? C'est la sainteté de Dieu qui nous est redonnée, qui est augmentée en nous. La consécration, c'est la consécration, et nous n'aurons jamais fini de l'accueillir et de la répandre par notre propre vie dans les relations concrètes avec les autres. Alors, la diffusion de cette bonne odeur du Christ se voit déjà tangiblement chez ceux et celles qui, comme on dit, consacrent leur vie avec générosité pour leurs frères. Donc, au-delà du sacerdoce ministériel, donc les prêtres, quoi, eh bien, tous ceux et celles qui vivent de leur baptême, leur confirmation, eh bien, participent à ce que ce baume, ce parfum se répande autour d'eux. Alors, je vais m'arrêter ici concernant ces exemples. Hein, dans les sacrements, bien sûr que vous allez me dire, mais oui, alors le mariage, ce n'est pas une consécration. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, dans quel sens ça allait, mais même plus que cela, il y a un numéro très beau, 1638 dans le catéchisme, qui dit ceci, « Du mariage valide naît entre les conjoints un lien, de par sa nature, perpétuel et exclusif. En outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état. Donc, il y a aussi une participation, vous voyez, à cette, ben oui, choix et mise à part. Alors, c'est quoi la consécration? Ben, ça veut dire que moi, je suis choisi, hein, par mon épouse, parmi tous les hommes de la terre. Elle a voulu me mettre à part pour elle, vous voyez. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui m'a choisi, moi, pour être l'époux de ma femme, de mon épouse. Et l'inverse, hein, de toutes les femmes de la terre, le Seigneur a choisi quelqu'un pour moi, qui me l'a donné comme un cadeau, une fois pour toutes aussi, tant que je vis, hein, ou tant qu'elle est vivante aussi, si elle résiste jusqu'à la fin. Vous voyez, donc c'est ce don réciproque, le Seigneur nous fait de l'un à l'autre, vous voyez. Alors je dis souvent aux fiancés, hein, si tous les matins de votre vie, quand vous serez mariés, hein, vous allez vous souvenir que vous êtes en fait un don de l'un pour l'autre que le Seigneur vous a fait, que bien sûr, après vous avez choisi, vous l'avez accueilli, vous l'avez accepté quand même, hein, bon. Ben, si chaque matin vous vous réveillez en disant, en fait, Seigneur, tu me donnes quelqu'un pour m'aimer, et que je vais aimer, et qui vient de toi, en fait. Ça peut changer beaucoup de choses dans la vie de couple. Hein. Ça peut aider beaucoup, n'est-ce pas? Demandez à ceux qui ont plus de 50 ans de mariage, 51 de mariage, qui dit mieux? Le plus, j'ai participé une fois à une 53, voilà. Eh ben, le plus que j'ai pu vivre, j'étais invité à une célébration d'anniversaire. Il y avait des couples de 20, 25, il y a tous les anniversaires. 75 ans, le plus âgé, de mariage, 75 ans, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, c'est pour dire quoi? Eh bien, que là, il y a une grâce qui est donnée, justement. Oui, il respecte les horaires. Hein. Oui, ben, voilà. Alors, c'est un témoignage mutuel qu'on se donne, vous voyez. C'est vrai que nous, pour nous les prêtres, regarder comme ça cette fidélité, c'est quelque chose de très beau. Et on se dit, ben, est-ce que moi, je suis aussi fidèle à mon Seigneur qui m'a appelé, qui m'a mis à part, et puis que je lui réponds tous les jours de ma vie, comme au premier jour, et peut-être même encore plus. Alors, voilà, jusqu'à maintenant, je vous ai proposé de méditer sur les dons que Dieu nous fait à travers la consécration, parce que c'est lui qui nous consacre, en fait, voilà, dans notre être et aussi pour une mission. En ce qui concerne les vœux religieux, donc les personnes qui choisissent un état de vie en tant que consacrés, sont aussi pour nous tous un témoignage, donc sans que ce soit un sacrement, hein, les vœux que ces personnes vivent, mais c'est un état de vie qui apparaît comme l'une des manières de connaître une consécration plus intime encore, qui s'enracine bien sûr dans le baptême, et qui est une, je dirais, dédicace, on se dédie totalement à Dieu. Dans la vie consacrée, les fidèles se proposent sous la motion de l'Esprit-Saint de suivre le Christ de plus près encore, de se donner à Dieu, parce qu'ils vivent le célibat, hein, et bien ils choisissent de donner tout leur amour, tout leur cœur à Dieu, qui est aimé par-dessus tout, et ainsi poursuivre la perfection de la charité au service du royaume, et puis en même temps nous rappeler à nous tous qu'est-ce que sera notre sort plus tard, hein, quand on va être accueillis dans la gloire du Seigneur, quoi. Hein, les personnes consacrées qui sont là, vous pouvez témoigner de cela, n'est-ce pas Marie-Christine, hein? Vous êtes pour nous le signe du royaume de Dieu, quoi, en fait. Jésus le dit, hein, au ciel, on va ni se marier, on n'aura pas besoin de sacerdoce non plus, on vivra uniquement de Dieu, quoi. Alors les personnes consacrées sont là justement pour nous, comment dire, incarner cela d'une manière visible. Et puis c'est vrai, vous regardez quelqu'un consacré, vous dites, finalement, Dieu seul peut combler le cœur de quelqu'un. Dieu seul. Alors ça m'est arrivé, hein, d'avoir entendre les époux qui disaient, en fait, qui témoignaient, hein, devant tout le monde, hein, l'un à côté de l'autre, sans se gêner. Hein. Mon mari ne me rend pas heureuse complètement. Hein. Puis lui répondu, elle non plus. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que c'est le Seigneur qui peut combler vraiment le cœur. Parce que voilà, il donne totalement, se donne lui-même à chacun d'entre nous. Alors du coup, dans les enseignements suivants, eh bien, nous allons voir comment notre réponse à ce don, ce cadeau du Seigneur peut se concrétiser. Et donc simplement, je vais l'introduire dans cette dernière partie de cet enseignement concernant notre réponse en tant qu'une consécration au cœur de Jésus que nous sommes invités à vivre ici. En fait, il s'agit d'un acte libre de notre part dans lequel nous disons au Seigneur, en fait, toi, Seigneur, tu m'as donné quelque chose d'extraordinaire le jour de mon baptême. Je l'ai peut-être oublié, comme peut-être j'ai oublié les grâces de la confirmation, je négligeais peut-être un peu la puissance de grâce du sacrement du mariage, ou moi, ordonné prêtre il y a 22 ans, j'ai peut-être oublié certaines choses, enfin ce feu premier, quoi, cet amour du début. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je t'appartiens en fait, et je veux te rechoisir. Je voudrais te demander de renouveler en moi cette consécration. Et donc je me rends disponible pour que toutes ces grâces que tu m'as données puissent porter du fruit. Donc je prends la décision, librement, consciemment, eh bien, de te choisir, toi, comme étant mon seul Dieu, mon seul Seigneur. Celui que je veux servir en premier et d'une manière unique, en fait. Et ce n'est rien d'autre, vous voyez, que l'accomplissement, finalement, du premier commandement, hein, qui est comment? Qui dit quoi? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tout ton cœur. De toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Vous voyez le mot « tout » là, « tout ». Est-ce que nous aimons Dieu comme il nous le demande? De tout notre être? Pas encore, hein. Peut-être certains peuvent dire, bah oui, mais qu'est-ce qui peut dire, ça y est, je suis arrivé, quoi, j'y suis. Donc je ne peux plus aimer Dieu plus que ce que je l'aime aujourd'hui. Et à la dernière scène, c'est vrai, le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qui est-ce qui peut aimer comme Jésus nous a aimés? Vous me le direz. Alors, c'est dans ce sens, vous voyez, c'est à partir de là que nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est que se consacrer. On fait faire une démarche de consécration au cœur de Jésus. Pourquoi le cœur de Jésus? Le pape Pie XII dit qu'il s'agit là de la synthèse de toute la foi catholique dans le culte du cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que le cœur de Jésus désigne sa personne même, hein, le centre de sa personne. Et pour le dire d'une manière toute simple, et on va approfondir cela ce soir aussi et demain aussi, la consécration au cœur de Jésus, en fait, c'est une démarche de foi, la foi que nous avons déjà reçue au baptême, d'espérance, reçue aussi au baptême, de charité, reçue déjà aussi. C'est un renouvellement volontaire de cette grâce baptismale, une réponse à l'amour de Dieu pour nous. C'est un peu comme une déclaration d'amour qui nous est faite, en fait. Et d'ailleurs, ici à Palais-Monial, c'est quoi la déclaration d'amour qui retentit pour chaque génération de pèlerins, pas que pour les parodiens qui sont très habitués. Et même, c'est chaque fois nouveau. Mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Pour toi en particulier. Ben, on n'aura jamais fini à accueillir et comprendre cela, vous voyez. Eh bien, nous voulons répondre à cet amour. Et Jésus le demande de manière très particulière, très précise, ici à Marguerite Marie, donc à l'Église entière, qui a mis dans le calendrier la fête du Sacré-Cœur. Donc, ce sont plein de possibilités, de signes, en fait, très concrets que, eh bien, chacun d'entre nous peut avoir et dont peut bénéficier pour répondre à cet amour du Seigneur. Donc la consécration, c'est cela, vous voyez. Je veux donner au Seigneur tout mon être, en fait. Mon propre cœur, en fait. Je veux le donner. Je veux te le rendre, Seigneur. Et cette donc consécration au cœur de Jésus, bien sûr, peut se faire une fois pour toutes, voilà, aussi. Mais nous, en tant que être humain, faible, qui reprenons souvent ce que nous donnons, on veut récupérer, nous sommes tentés d'oublier un peu nos engagements, n'est-ce pas? Eh bien, on a tout intérêt à renouveler cette consécration. Et certains le font d'ailleurs tous les jours. Et là, vous avez plein d'exemples dans l'histoire. Alors, demain, je vais vous parler justement de la façon dont Marguerite Marie elle-même nous invite à vivre cette consécration et aussi de la façon dont quelqu'un comme Louis-Marie Guignon de Montfort a compris l'importance de se donner à Jésus avec l'aide de la Vierge Marie. Ce n'est pas le premier, mais lui, il nous a expliqué cela d'une manière très belle. Et on va vivre cela un peu plus demain. Mais déjà, aujourd'hui, voilà, je vais vous proposer de prendre un papier, enfin un petit formulaire que nous proposons ici pour une consécration personnelle ou familiale, si c'est le cas, qui va vous aider à méditer un peu, déjà dès maintenant, ces formules, ces expressions que nous allons utiliser dimanche matin dans la chapelle des apparitions, pour ceux qui le veulent, pour exprimer notre désir d'appartenir vraiment au cœur de Jésus. Rendre amour pour amour. Nous donner à lui, totalement. Alors, vous allez avoir aussi quelques explications, là, qui vont reprendre un peu ce que je viens de vous dire ici. C'est important de prendre le temps, là où je vais vous laisser maintenant méditer un peu là-dessus, concernant cette démarche que nous pouvons faire, que nous sommes invités, voilà, à rentrer avec tout notre cœur librement, bien sûr, devant le Seigneur. Et pour terminer, ce qui pourra nous aider, évidemment, là, à peine 2 semaines, quoi, 10 jours, samedi soir, on aura 2 semaines, depuis la vigile de Pâques, vigile pascale. Ceux qui avaient participé à ce moment, cette année ou une autre fois dans votre vie, s'il y en a qui sont malades, ne peuvent pas participer à la vigile pascale, j'espère qu'au moins une fois dans leur vie ils l'ont fait, c'est le moment où tous les chrétiens sont invités à justement renouveler les promesses de leur baptême. Donc tous les ans, en fait, à Pâques, eh bien, nous sommes invités à nous redonner au Seigneur, à nous consacrer à lui, à prendre de nouveau conscience de qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, en fait, que de porter le nom du Christ. Des personnes qui sont passées de la mort à la vie. Et si le Christ est ressuscité, sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Hein, disait le texte de tout à l'heure dans la louange, on a été invité justement à ne pas nous habituer avec cette grâce de la résurrection qui nous concerne nous aussi. Donc vous voyez, dans cette démarche de consécration au cœur de Jésus, il s'agit tout simplement d'actualiser cela. Vous voyez, cette démarche que nous avons faite, peut-être avec le siège à la main, en disant d'abord « je renonce à tout ce qui est mal et à l'auteur du mal, et je choisis ». Je crois en toi, Seigneur, qui est mon Père, qui est mon frère, mon Sauveur, puis celui qui me sanctifie, vous voyez. Et donc, dans cette démarche de la consécration au cœur de Jésus, c'est une façon d'exprimer cela d'une manière, je dirais, beaucoup plus personnelle et beaucoup plus profonde, intime, vous voyez, personnelle ou familiale. Donc, je vous expliquerai un peu plus cela demain matin. Je vous laisse dans la journée comme ça méditer déjà sur ce texte. Et puis ce soir, nous aurons à voir un enseignement qui va nous aider à comprendre à quel point le cœur de la Vierge Marie, enfin elle, a compris en fait l'importance de ce don total d'elle-même et comment son cœur, qui a été offert totalement au Seigneur, a été complètement transformé. Et on va prendre comme support en fait les passages bibliques de la liturgie qui est dédiée au cœur immaculé de Marie qui seront expliqués ce soir, enfin cet après-midi, par le Père Jean-Rudolf Kars. Bonne prière, bonne méditation.